m'amène à rappeler la parole de Dieu et à faire nôtre certaines promesses qui y sont contenues. Promesses, mais aussi les exhortations à rester attachés à Jésus-Christ, à garder la foi, à garder le cap, à rester fidèle, à être, comme on l'a chanté, des sentinelles qui, lorsque le monde de Séir ou de Dumas, qui veut dire méchanceté, moqueur, Ésaïe 21, si je ne m'abuse, entend l'interpellation de ce monde, dis un peu, sentinelle, qu'en est-il de la nuit? Et pour davantage se moquer, voilà que le monde de Dumas d'alors, le monde de moqueurs, répète, « Sentinelle, que dis-tu de la nuit ?» Et la sentinelle que nous sommes, pour le monde, mais aussi pour Israël, est appelée à répondre, « Le matin vient et la nuit aussi. » Vous allez me dire, physiquement, ce n'est pas possible. Sinon que ceux qui sont, je ne vais pas dire à 40 000 kilomètres, non, c'est divisé par pi, hein, c'est ça quoi, pour trouver la distance qui sépare les pieds de celui qui se trouve en dessous de moi, il est dans la nuit, alors que je suis dans le jour. Physiquement, on peut comprendre, mais la sentinelle voit plus loin que cela, et elle proclame qu'il y a un état spirituel et moral où ceux qui sont de la lumière vivent entourés des ténèbres et doivent être lumière dans ce monde. Voilà le rôle que doit avoir la sentinelle. Et malgré les récents événements, mon souhait, c'est qu'au travers de la parole de Dieu, nous soyons encouragés à regarder en haut. Parce que c'est de là que vient la délivrance. C'est de là qu'est le meilleur. C'est donc avec confiance et sérénité que je nous propose des jours meilleurs, remplis de victoires en Jésus-Christ. Et la plus belle des victoires, ce serait la délivrance de ce monde pervers et corrompu. Alors que notre Dieu nous comble chacun de ses grâces, nous fortifie dans le chemin, que sa parole vienne davantage ancrer notre foi dans l'espérance, en Jésus-Christ, au-delà du voile où il est en train, lui Jésus, de nous préparer une place. Et que le Dieu de l'espérance vienne vous remplir de sa paix et de sa joie. Notre Dieu n'en a pas fini de nous émerveiller, quelles que soient les circonstances dans lesquelles nous vivons. Jésus, lorsqu'il quittait les siens pour rentrer dans la maison du Père, pouvait dire à ses disciples, « Tout pouvoir m'a été donné, dans le ciel et sur la terre. » Tout. Il n'y a pas d'exclusive, bien-aimé, à ce mot « tout ». Tout pouvoir, c'est l'autorité que Jésus a reçue de la part de son Père. « Je te donne tout pouvoir. » Et cette réalité se verra lorsque Dieu lui-même a choisi un jour où le Fils de l'homme, celui qui a été maltraité, qui a été jugé, comme on l'a lu dans Ésaïe 53, qui a été blessé à cause de nous, qui est mort, qui a donné sa vie, Dieu a fixé un jour à ce Fils de l'homme pour juger les nations. Mais aujourd'hui, comme dit l'Épître aux Hébreux, lui qui a reçu tout pouvoir, nous ne voyons pas encore que toutes choses lui soient soumises, lui sont soumises. Mais, Si nos regards sont inquiets en regardant le monde, comme on l'a lu dans Ésaïe 53, si nous sommes ressuscités, nous affectionnons les choses qui sont en haut. Et là, nous voyons Jésus couronné de gloire et d'honneur. Bien-aimé, c'est de là-haut qu'il vient. Pour régner, mais pour prendre avec lui l'Église qu'il aime tant. Alors qu'en attendant ce retour, qu'il nous trouve veillants, des serviteurs fidèles, non pas avec un zèle amer, parce qu'elle produit une sagesse selon le monde, mais qu'il nous trouve veillants, les reins sains pour l'attendre, heureux dans son amour, puissamment fortifiés dans la foi et attendant patiemment et avec persévérance le retour du Seigneur. L'étude de Malachie est mise entre parenthèses pour ce jour. J'ai été interpellé par les événements et c'est donc de cela que je voudrais nous entretenir en m'appuyant sur la parole de Dieu pour que nous soyons encouragés dans le chemin. Il y a des regards qui, comme on l'a lu, qui sont inquiets. Ne promène pas, dit le prophète Ésaïe 41, ne promène pas des regards inquiets. Mais nous, nous avons un regard qui est fixé là-haut. Et celui qui tourne, psaume 34, qui tourne les regards vers l'Éternel, est rayonnant de joie. Il est rayonnant de joie. Je m'étais proposé de parler d'une parabole, et puis hier, sur les circonstances de ce monde, pour dire que le Seigneur Jésus nous avait prédit des choses. Et puis hier, en préparant, je me suis rendu compte que l'introduction à cette parabole était en elle-même un message. Donc, je ne vais pas vous faire languir davantage. Je voudrais que nous lisions ensemble quelques versets qui se trouvent dans l'épître de Pierre. Deuxième lettre de Pierre. L'apôtre Pierre avant de lire le texte, l'apôtre Pierre est en train de rappeler ici ce que lui-même a déjà enseigné, ce que les prophètes, à la fois de l'Ancien Testament, mais aussi les apôtres, le Seigneur Jésus lui-même, a dit concernant les derniers jours. L'apôtre Pierre, dans ses lettres, est en train de nous mettre en garde contre les faux prophètes, contre ceux qui vont se proclamer Messie, ceux qui vont amener à l'apostasie, c'est-à-dire qui vont nous détourner de la saine doctrine de Christ. Il nous met en garde contre cela. Et dans le chapitre, il nous met en garde contre les moqueurs, qui diront, mais allez, ça fait 2000 ans qu'on annonce que Jésus revient. Et sa promesse, où est-ce qu'elle est? Je vous invite à lire quelques versets de cet épître. 2 Pierre, chapitre 3. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence. Bien-aimés, nous sommes invités à avoir ce renouvellement de l'intelligence. c'est-à-dire à cette faculté de pouvoir discerner les temps dans lesquels nous vivons et choisir la vie plutôt que de choisir la mort. Il se peut qu'à cause de notre foi, nous ayons enduré l'épreuve. Comme certains chrétiens aujourd'hui, à Mossoul par exemple, qui à cause de leur foi sont persécutés, même jusqu'à la mort. Et l'apôtre Pierre est en train de nous dire ici, « Bien-aimés, que votre intelligence soit renouvelée par le Saint-Esprit et par la parole de Dieu. Ne vous laissez pas entraîner comme des ignorants dans ce que le monde vous propose. » Et nous continuons la lecture. Donc, je cherche, dit Pierre, à éveiller par des avertissements le klaxon d'une voiture qui fonctionne pour dire « Attention les gars, il y a danger, votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance. » Bien-aimé, quand je lis la parole de Dieu, je me rends compte que ces choses, déjà dès le début, dans la Genèse, jusqu'au dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, qui est la révélation de Jésus-Christ glorifié, mais aussi en tant que juge et sauveur, tout cela, quand on sonde les Écritures, nous découvrons le projet de Dieu et comment l'histoire va se dérouler. Et c'est pour ça qu'il nous est dit que vous vous souveniez des choses qui sont annoncées d'avance par les prophètes, et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise et en disant « Mais où est la promesse de sa venue, de son avènement ? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. » Vous trouvez que ça demeure comme dans le même état? Le monde d'aujourd'hui est meilleur qu'avant? Ce sont les moqueurs qui disent cela. Mais nous, nous constatons qu'il va de mal en pire. Et c'est la parole de Dieu qui nous l'informe. Et alors, concernant ces moqueurs, Pierre de dire, verset 5, ils veulent ignorer. Ils sont dans les ténèbres. Ils ont leur entêtement voilé. Alors que, bien-aimés, nous sommes, nous, des enfants de la lumière. Et le Saint-Esprit vient nous éclairer au travers de sa parole. Combien elle est vraie, combien elle est actuelle. Et ce qui a été annoncé de tout temps, dès le début, est en train de se réaliser sous nos yeux. Et l'apôtre Pierre dit, « Moi, je ne veux pas, mes bien-aimés, que vous restiez dans l'ignorance. » Verset 8, « Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. » Bien-aimés, ce que j'ai entendu par les pasteurs, par les anciens, il y a 65 ans, ils parlaient déjà de ce que je vais vous rappeler, et mes parents entendaient déjà ces choses. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. Et Pierre est en train de dire ici, pour Dieu, un jour, c'est comme 1000 ans. Essayez un peu d'imaginer, à 65 ans, quand j'entendais l'enseignement du retour du Seigneur, ça fait combien de secondes pour Dieu, ou millisecondes? Ça vient de se passer pour Dieu. Donc pour lui, il n'y a pas de temps. Et Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. Son désir, en prenant patience et en permettant à ce que le mal et le bien se côtoient dans ce monde de perversité, de ténèbres, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et il prend patience Et il appelle encore aujourd'hui, viens à moi. Je ne veux pas que tu ailles dans cette éternité de souffrance, de malheur. Je veux que tu viennes dans la félicité de ma présence. C'est pour ça que le cœur de Dieu est triste quand il voit les hommes opposés à sa grâce. Et il prend patience. Et c'est ce qu'il est dit, verset 9, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, c'est-à-dire vous les moqueurs, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Ah, s'il est un mot qui choque aujourd'hui, c'est le mot de repentance. C'est ce mot par lequel l'homme atteste que Dieu a raison. Et que lui est pécheur. Mais l'orgueil de l'homme refuse la repentance. Verset 14. C'est pourquoi, bien-aimé, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvé par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Dans la paix. Quelles que soient les circonstances, la paix de Dieu n'est pas celle que le monde donne. Elle surpasse toute intelligence. Verset 17. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, nous sommes des gens de la lumière. Et l'apôtre Pierre, ainsi que les apôtres, ainsi que Jésus-Christ, ainsi que les prophètes, nous ont avertis. Et l'exhortation vient, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Amen. C'est vrai. Amen. Depuis quelques années, le monde bascule dans la terreur, dans la cruauté. Et cela se passe à la vitesse VV'. C'est plus que les avions supersoniques. C'est rapide. On connaît à peine une nouvelle loi. Même édité à l'opposé de la parole de Dieu, que déjà, en vue de garder la paix, les hommes en énoncent déjà une autre. On ne sait plus suivre. Il allait mal depuis la chute de l'homme, mais aujourd'hui, ça va très, très, très mal. Tout s'accélère. Et j'ai entendu récemment les hommes dire avec une certaine autorité, nous allons construire un monde meilleur. Quelle leurre ! Construire avec qui ? Avec quoi ? Comment ? Écoutez ce que Paul dit aux Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 1er. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin Frères, qu'on vous écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les transpercera comme les douleurs de l'enfantement qui surprend la femme enceinte, et les hommes n'échapperont point. Mais vous, mes frères et mes sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit, ni des ténèbres, ni dans l'ignorance. Nous sommes informés par Dieu lui-même. Mais pour comprendre les choses de Dieu, ce n'est pas avec l'intelligence de l'homme, c'est avec le Saint-Esprit lui-même qui nous conduit dans cette parole et qui nous dit combien elle contient les vérités nécessaires pour notre marche. Les hommes veulent construire la paix. Ils veulent construire la sécurité. Rappelons-nous que voici 6 mois, l'Europe entière, avec les Américains, avec les Russes, était ci et là pour, en train de, comment est-ce qu'on dit, de se rappeler le jour de victoire de la guerre 14-18 et 40-45. Et tous disaient unanimement, enfin, l'Europe unie, ce sera la paix, c'est la paix au milieu de nous. Ça fait à peine pour Dieu quelques millisecondes que ça vient de se passer. Hein? Quand les hommes parleront de paix et sûreté, une ruine soudain les envahira. Comme le traité de paix signé par les hommes est de courte durée. Une seule personne donne la paix, une paix qui lui a coûté cher. Il a fait la paix par le sang de la croix, une paix avec Dieu, mais une paix entre nous. Connaissez-vous son nom? Son nom, c'est le Prince de paix. Emmanuel, Dieu avec nous. C'est ce Jésus, c'est ce Prince de la paix qui nous dit, je vous donne ma paix. Non pas comme le monde la donne, mais je vous donne ma paix. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence et qui gardera vos cœurs et vos pensées. En Jésus-Christ. Où aller donc se réfugier dans des temps de calamité? Comment ne pas se laisser ébranler, comme le demande Jésus, alors que partout on lance des bombes, des grenades, de partout. On soit des grenailles de partout. Comment ne pas se laisser ébranler? La différence, c'est entre le chrétien et le non-chrétien. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? J'ai dit qu'il y a une foule de textes bibliques qui germe dans mes pensées. Moi, je vous encourage à lire la parole de Dieu, parce que quand on est dans des situations telles que nous vivons, le Saint-Esprit prend autorité sur nos pensées pour ramener à la surface cette parole. Et voilà, encore un texte que je pense qu'on va lire ensemble. Hein. Il n'est pas dans mes notes, mais c'est le psaume, si j'ai bon souvenir, le psaume 27, qui doit être... où aller se réfugier, ça doit être ça. Le psaume 27. Ah oui, 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 c'est ça. Un psaume de David. Et dans ma version, le titre qui est noté, c'est « Le triomphe de la foi ». L'Éternel est ma lumière. On vient de dire que nous étions des enfants de la lumière. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et qui tombent. Si une armée campait contre moi, et il y en a aujourd'hui, je ne parle pas de l'armée belge, si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Je serais, malgré cela, plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel. Pour comprendre la magnificence de l'Éternel, et pour admirer son temple, car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Ce rocher, c'est Christ. Et déjà ma tête s'élève, mes pensées s'élèvent. Un peu plus loin, verset 7, « Éternel, écoute ma voix, je t'invoque, aie pitié de moi, exauce-moi, mon cœur dit de ta part, je cherche ta face, ô Éternel, ne me cache point ta face, ne repousse pas avec colère ton serviteur, Seigneur mon Dieu, tu es mon secours. Ne me délaisse pas. Ne m'abandonne pas. Tu es le Dieu de mon salut. » Quel encouragement pour nous. Bien-aimés, ne nous trompons pas de cible. Derrière les actes de cruauté que nous voyons sous les yeux, que nous entendons, et je sais, oui, comme je l'ai dit, on voit ça sous les yeux parce qu'on est en direct via la télévision. On a le sentiment qu'on a appelé les journalistes avant de faire l'attaque pour qu'on assiste en direct aux événements. Derrière ces actes de barbarie se cache un autre conflit. Il s'agit d'un conflit spirituel. Et bien aimé, reprenant ce que Paul dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous sommes invités à aimer ceux qui nous haïssent, à bénir ceux qui nous maudissent, à aimer nos persécuteurs, à prier pour eux, pour qu'ils trouvent le sens réel de leur vie en Jésus-Christ. On ne doit pas les maudire, même s'ils nous font peur. Ne nous trompons pas, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, dit Paul en Éphésiens 6, 12, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, Satan en étant le prince. Il y a l'esprit de l'antéchrist ou de l'antichrist qui y règne déjà depuis les évangiles. Et nous sommes invités à nous revêtir des armes spirituelles et de rentrer dans la prière. Aujourd'hui, j'aurais voulu vous parler. J'en suis nulle part. Dans ce que je voulais partager avec vous. Mais pour conclure, je voudrais quand même nous encourager à être des vainqueurs. Et je voudrais lire avec vous quelques textes que l'on retrouve dans le livre de l'Apocalypse. Parce que, bien aimé, aujourd'hui, si hier il y avait les conflits, les débats sur l'homosexualité, sur les mariages, sur l'adoption des enfants, sur. Aujourd'hui, l'idée de se courber, de se prosterner devant le prince de ce monde, Satan lui-même, au travers de ses suppôts, est mise à l'honneur. Soit que tu apostasies ta foi chrétienne, et il y en a qui le vivent, hein, ou alors tu meurs. Quiconque me reniera devant les hommes, dit Jésus, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Ça doit être la part de nos bien-aimés qui sont chassés et tués à cause de leur foi. On pensait que ça allait se passer au Moyen-Orient, on pensait que ça se passait en Ukraine, que ça se passait aux USA le 11 septembre, on pensait que ça se passait à Madrid, à Boston, on pensait que c'était loin. Bien aimé, il y a quelques jours c'était à Paris, avant c'était Bruxelles, Paris, Verviers, Bruxelles, l'étau se resserre. Apocalypse, allez. À chaque épître que Jean écrit, c'est toujours à celui qui a des oreilles pour entendre, en tant que ce que l'Esprit dit aux églises. Et dans toutes les épîtres, les sept épîtres que Jean adresse de la part du Seigneur glorifié aux sept églises de l'Asie mineure, c'est toujours à celui qui vaincra. Il nous invite à être des vainqueurs, à être fidèle jusqu'à la mort. Et j'ai noté, je vous lis, on ne lit pas parce que j'ai noté, à celui qui vaincra, je donnerai l'arbre de la vie. À celui qui vaincra, il n'aura pas la seconde mort, qui est d'être éloigné de Dieu. À celui qui vaincra, et je termine par là, à celui qui vaincra, je donnerai la manne secrète. Secrète parce que le monde ne la connaît pas. Elle parle d'un Jésus, d'un sauveur qui est venu d'en haut. Ce n'est pas un pain qui est venu d'en bas tel que le monde le propose. Mais Jésus pouvait dire, moi, en parlant de cette manne, moi je suis le pain vivant, je suis le pain d'en haut. Celui qui mange du pain que le monde donne mourra, mais celui qui se rassasie de moi ne mourra jamais, il vivra éternellement. Je donnerai à celui qui vaincra, donc ça c'est chapitre 3, verset 17, hein, à l'église de Pergame, à celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, je lui donnerai un caillou blanc. Et je termine par là. L'idée m'est venue ce matin et puis j'aurais voulu trouver une centaine de cailloux blancs, comme ça. Je l'ai pris dans mon aquarium. J'aurais voulu vous le donner à chacun en y mettant la référence. dans l'Antiquité, et le texte reprend cette idée, dans l'Antiquité, quelqu'un qui passait devant les tribunaux recevait, après avoir acquitté sa peine, ou alors après avoir été absous de sa peine, recevait soit un caillou noir pour dire « tu es toujours condamné, tu dois retourner en prison », soit recevait un caillou blanc en lui disant « toi tu es gracié ». Et avec ce caillou, il y avait, semble-t-il, deux noms qui étaient inscrits, des noms qui étaient inscrits. Le nom de la personne et le nom d'un empereur. De sorte que la personne, quand elle allait se présenter, peut être connue comme étant un malfaiteur, pouvait dire, non, regardez-la. Il y a le nom de celui qui a payé pour moi. Et quand Jésus, au travers de Jean, est en train de nous dire à celui qui vaincra, je lui donnerai un caillou blanc. C'est-à-dire, je vais lui donner un caillou comme quoi il est mon enfant, qu'il est gracié, qu'il est pardonné, pour lui dire qu'il est approuvé de moi, que je prends mon plaisir en lui. C'est le symbole de la victoire que Jésus nous donnera si nous marchons fidèlement à sa suite. Quelle récompense! Est-ce que vous allez recevoir ce caillou blanc? Alors soyez fidèles et vainqueurs dans le nom du Seigneur. Alors vraiment que le Dieu d'espérance vous remplisse de joie et de paix, quel que soit